Bonjour à tous. Je remercie Anne-Sylvie pour cette journée qui nous semble très très importante et très intéressante pour nous. Alors tout d'abord, je vais commencer mon intervention en m'excusant de l'absence de M. Rauti Rezali, qui est le directeur de l'Institut d'études coraniques et qui devait intervenir en fait à la base. Donc il est très souffrant, il s'excuse. Et c'est moi qui vais parler tout seul à sa place. Je suis professeur de spiritualité dans cet institut. Mais par ailleurs, je suis aussi professeur de sciences du Coran, enfin j'ai été à l'Académie française de la pensée islamique. Dans ce cadre, on va permettre d'intervenir. Alors, le propos que je vais tenir aujourd'hui, ça va être tout simplement de parler, dans un premier temps, de comment on enseigne le Coran et les sciences du Coran au sein de l'Institut d'études coraniques. C'est un premier temps. Ce qui me permettra, dans un second temps, d'expliquer plus précisément ce qu'on attend des étudiants dans la réception de ce qu'est le Coran, de ce qu'on veut leur faire transmettre, ce qu'on veut transmettre, excusez-moi. On terminera avec justement, en posant un peu les problématiques des présupposés, des perspectives, des échelles. On verra, je vous expliquerai où je veux en venir. Alors commençons, j'essaierai d'être bref parce qu'on a déjà un peu de retard. Tout d'abord, alors, l'Institut d'études coraniques est un institut confessionnel, d'accord ? C'est-à-dire qu'il se propose à travers son enseignement, de nourrir la foi des étudiants. D'accord ? Les étudiants ne sont pas forcément musulmans, ils peuvent être non-musulmans, s'ils veulent connaître comment les sciences islamiques sont enseignées dans un institut confessionnel. D'accord ? Donc c'est ouvert à tous, mais l'objectif, c'est tout d'abord de nourrir la foi des étudiants. Donc ça, c'est très important à noter. À partir de là, on part de deux choses. D'abord, le Coran est la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est une réalité spirituel qui est au-delà de l'espace-temps, d'accord, et sur lequel, donc, en vérité, on ne peut rien dire en soi, sauf ce qu'il en dit lui-même, en vérité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'à partir de là, en considérant le Coran comme la parole immuable de Dieu, alors forcément, ça va être une parole qui va être centrale dans l'enseignement. Ça veut dire quoi, centrale? Ça veut dire, quelles que soient les matières que l'on va enseigner, le Coran sera la source et la base des enseignements qu'on va proposer. D'accord ? Je donne quelques exemples. Par exemple, la langue arabe, donc on a trois grands départements à l'Institut d'études coraniques. Le premier, c'est le département de langue arabe. Et dans ce département, on fait deux années d'études de la langue arabe, on va dire moderne, classique, comme on parle aujourd'hui. Mais elles sont toujours ensuite complétées par deux autres années de ce qu'on appelle l'arabe coranique. C'est-à-dire que ce n'est plus l'arabe qu'on parle aujourd'hui, mais c'est un arabe avec toute la philosophie qu'elle présuppose à l'époque de la révélation coranique. D'accord ? C'est assez spécifique. La même chose pour le deuxième département, qui est le département d'apprentissage de la psalmodie coranique. D'accord ? Et si vous allez sur le site internet, vous verrez que le département ne s'appelle pas le département du Coran, mais le département du Saint-Coran. Donc on annonce qu'il y a une sainteté derrière qu'on recherche. Je donnerai un troisième exemple et je terminerai là-dessus. C'est par exemple pour le dogme. Donc le Coran ne s'appelle pas les dogmes islamiques, parce que les dogmes, c'est des choses concrètes, mais que l'on crée, excusez-moi. On va parler plutôt de la foi selon le Coran, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Alors, lorsqu'on a compris cela, on va essayer de comprendre, dans un second temps, comment on perçoit le Coran. Alors pour comprendre comment on le perçoit et comment on veut l'enseigner, on va faire quelque chose de une schématisation un peu de ce que peut être l'homme. D'accord ? Donc l'homme, on va dire, pour faire simple, c'est un corps, une âme et un esprit. D'accord ? Quand on dit un corps et une âme, on veut parler du côté physique et psychique, d'accord ? Qui est commun à tout le monde. Et ce côté physique et psychique, il va être capable de recevoir ce qu'on appelle le spirituel, l'esprit avec un grand O. Et tout l'objectif de l'enseignement dans les instituts coraniques, dans les instituts d'études coraniques, ça va être d'essayer de montrer aux étudiants comment, à travers une connaissance, une pratique physique et psychique, donc une connaissance psychique de notre réalité psychique, excusez-moi, et une pratique physique, comment l'étudiant va être apte à recevoir cette réalité spirituelle coranique dont on ne peut rien dire dans un premier temps. D'accord ? Voilà toute l'idée. Et ça va se passer comment? Tout simplement, et bien pour faire simple, le Coran, ça va être... On va d'abord parler du côté pratique du Coran, c'est-à-dire que le Coran impose des pratiques d'ordre physique, qu'elles soient culturelles ou culturelles, c'est-à-dire qu'elles soient de l'ordre des ribadettes, D'accord, la prière, le jeûne, etc. Ou de l'ordre des mu'amalat, ça va être comment se marier, comment faire du commerce, etc. Donc ça va être l'idée de règles. D'accord, ces règles, ça va engager le côté d'abord physique de l'être humain, c'est-à-dire une pratique. Dans un second temps, il y a ce qu'on appelle le domaine de la foi, et qui lui va engager le côté plutôt psychique. D'accord, ça va être qu'au-delà des règles de pratique, il y a des principes de croyance et des valeurs de morale, de la morale. Et ce deuxième point, d'accord, le côté psychique, je le souligne quand même, il n'est pas juste rationnel, il est aussi émotionnel. D'accord, c'est-à-dire que dans notre élaboration intellectuelle, dans notre élaboration des principes, il y aura une élaboration d'ordre intellectuel, mais aussi émotionnel. Tout ça, c'est d'ordre psychique, d'accord, un côté rationnel, un côté émotionnel, ça va ensemble. Donc, à partir de cette donnée-là, on va créer ce qu'on appelle toutes les matières des sciences islamiques. Le fiqh, c'est-à-dire toute la jurisprudence islamique, pour comprendre comment pratiquer, et puis l'aqida, c'est-à-dire le dogme, comment croire et quelles valeurs adopter. D'accord, voilà. Ça, ce sont les aspects purement, on va dire, pratiques. Mais ensuite, derrière ça, l'idée, ça va être d'essayer de faire comprendre aux étudiants qu'il y a un au-delà du physique et du psychique. Il y a un au-delà du corps et de l'âme. Et ça va nous engager dans ce qu'on appelle les sens du Coran. Alors, qu'est-ce que les sens du Coran ? Alors, on verra qu'il y a un côté historique aussi. On va essayer de l'étudier juste après. Mais je m'explique. Alors, le Coran, comment on le définit ? Alors là, je vais être obligé de parler aussi un peu de ce qu'on a fait, nous, à l'Académie française de la pensée islamique, parce que j'interviens dans les deux instituts. Et dans l'Institut d'études coraniques, je suis professeur de spiritualité. J'utilise beaucoup le Coran aussi. Par contre, les sens du Coran, je les pratique plutôt à l'Académie française de la pensée islamique. Donc, je vais expliquer un peu comment on voit la chose, mais c'est la même chose dans les deux instituts. Voilà comment on présente le Coran. On dit tout d'abord, le Coran étant le verbe de Dieu. Alors, attendez, excusez-moi, très important. Nous sommes un institut qui s'inscrit dans la mouvance sunnite de l'islam. Ça aussi, c'est peut-être important à dire quand même. D'accord ? Donc, c'est le mouvement sunnite. Et on verra que c'est important, je vais l'expliquer pourquoi, parce qu'il y a une méthodologie derrière. Alors, selon la vision sunnite, alors c'est une vision qui est majoritaire, elle est consensuelle, donc elle est pas, il n'y a pas de dogme en soi, on n'a pas un pape, mais il y a une vision, on va dire, majoritaire consensuelle. On va parler de ça à peu près. La première chose que je vais dire, c'est qu'on va d'abord essayer de comprendre que le Coran, c'est le verbe de Dieu, c'est-à-dire c'est un verbe incréé. Là, on est bien dans la mouvance sunnite, hein. On n'est pas chez les Mu'tazilites ou peut-être d'autres courants. C'est une parole qui est incréée, ça veut dire qu'il y a de l'ordre qui est au-delà du temps et de l'espace, et dès lors, il y a ce qu'on appelle une descente qui se fait. Donc la première chose qu'on va étudier dans les sens du Coran, c'est qu'est-ce que la descente ? Qu'est-ce que la descente du Coran ? Comment le verbe passe de l'absolu au relatif ? Comment Dieu va condescendre à parler aux hommes ? Donc on va parler du wahd, du tanzil, etc. Et ce qui est important, la deuxième étape, c'est au-delà de la descente, c'est comment à partir de cette descente-là va s'opérer ce qu'on appelle une traduction de l'absolu au relatif, ou un passage de l'absolu au relatif. Tout ça se passe dans le cœur du prophète, d'accord ? Et là, on va parler du phénomène de coranisation. D'accord ? Il y a un Coran, c'est-à-dire un rassemblement, une synthèse, et quelque chose qui va sortir en langue arabe. D'accord ? Ça aussi, c'est le deuxième point qu'on étudie beaucoup dans les sens du Coran. C'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de là qu'on peut comprendre que cette langue arabe qui va sortir, ces lettres qui sont finies, conditionnées, relatives, elles viennent à la base d'une réalité qui est absolue, inconditionnée, infinie. D'accord ? D'où ce passage-là crée un problème en vérité. Un double problème. Le premier, il est d'ordre historique, qui ne nous intéresse pas plus que ça dans notre institut, et je vais vous expliquer pourquoi. Et un autre, d'un problème d'ordre interprétatif. Comment on va interpréter cette parole ? Alors, d'un point de vue historique, il faut savoir que le fait qu'on passe de l'absolu au relatif, on explique à nos étudiants que ça crée une espèce de... comment on pourrait dire ça ? Quand une pierre tombe dans l'eau, ça fait des ondes, on va dire. Puis ça crée une espèce de diffractation. Cette diffractation, on va la retrouver dans notamment la pluralité des lectures coraniques. D'accord ? On va retrouver aujourd'hui, on a pu recenser d'un point de vue oral, de la tradition orale, 10 lectures coraniques qu'on considère consensuellement comme authentiques. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ensuite dans l'étude de la structuration du Coran et de la mise par écrit du Coran. Parce que ce phénomène-là, au début, le phénomène coranique, est d'abord un phénomène oral. D'accord ? Et c'est là que peut-être on va avoir une différence avec peut-être la méthode historico-critique, c'est que nous, l'écrit passe dans un second plan par rapport à l'oral. L'oral, à l'époque du 7e siècle, était plus, on va dire, fiable que l'écrit. D'accord ? C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est l'oral qui permettait la fiabilité d'une tradition, et non pas l'écrit. L'écrit n'était pas fiable à l'époque. D'ailleurs, on le voit, la preuve, c'est que très rapidement, on va avoir plusieurs versions écrites du Coran. Et beaucoup vont être détruites, vont être brûlées. D'accord ? Ce qui va compter, c'est d'abord la tradition orale. Soit bon, on pourra en parler après, ça pourrait être intéressant. Et donc là, on va commencer dans l'étude du Coran, on va parler un peu de l'aspect historique, d'accord ? C'est-à-dire comment à l'époque du prophète, est-ce que le Coran a été mis par écrit, puis à l'époque du premier calife, puis du troisième calife, comment ça s'est passé, etc. Effectivement, nos sources sont exclusivement traditionnelles. D'accord ? Alors, on va essayer de s'expliquer pourquoi. Lorsqu'on a fait tout ce travail-là, d'accord, donc de passage de l'absolu au relatif, puis dans le cœur du prophète, cette coranisation, et puis le problème de la diffractation en plusieurs lectures, et puis surtout le problème du passage de l'oral à l'écrit, parce que ça va être un vrai problème chez les compagnons, ce passage de l'oral à l'écrit. C'est un vrai problème. On passe ensuite, ce qui nous intéresse nous derrière ça, à la science de la remontée. Parce que là, il y a une descente, maintenant on va essayer de remonter ce qu'on appelle le ta'wil, remonter à la source, à ce qui est promis. Ce ta'wil se fait selon deux formes, comme disait Anne-Sylvie au début, la science de la psalmodie, c'est-à-dire on va réciter le Coran, on va essayer de le revivre spirituellement à travers la récitation, et deuxièmement à travers le tafsir, c'est-à-dire maintenant non plus juste le psalmodie qui est le côté physique, on va mettre à contribution son corps et sa voix, mais du côté plutôt psychique, c'est-à-dire rationnel, émotionnel, on va essayer de comprendre le Coran, de le vivre. Alors c'est là où je vais parler rapidement de la méthode sunnite peut-être de lecture du Coran qui peut être intéressante, et on va voir qu'en vérité... Elle s'approche assez de tout ce qui a été dit concernant la méthode historico-critique. Juste que l'objet n'est pas le même, c'est tout. Tout se base sur le verset 7 de la Sourate 3, qui est très connu, hein, le verset 7 de la Sourate 3, où Dieu, pour le musulman, Dieu dit que ces versets, ces indications qu'il y a dans le texte coranique, il y a des versets qui sont bien établis et d'autres qui sont ambigus. D'accord ? Et toute la problématique de ce verset va être de dire comment... faire en sorte de lire. J'ai dit Sourate 3, verset 7. J'ai dit l'inverse ? D'accord, excusez-moi. Sourate 3, verset 7. Toute l'idée du tafsir selon la méthodologie sunnite, maintenant je parle juste de la méthodologie sunnite, est de dire que justement, en vérité, dans un premier temps, on ne peut rien dire du Coran. D'accord ? Il ne faut pas mettre ces présupposés idéologiques dans la lecture du Coran. C'est l'idée de dire, et ne connaît son interprétation que Dieu. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ne mettez pas vos présupposés idéologiques, mais laissez Dieu vous parler. Bon. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est encore autre chose. Ouais, on est d'accord. Tout le problème, il est là, en vérité. Mais je note quand même qu'il y a un point très intéressant dans l'idée de présupposer, c'est le mot zaïr. Dans ce verset, le zaïr, Dieu dit que toute personne qui lit le Coran avec un zaïr, c'est-à-dire une inclination, donc un présupposé idéologique, se fourvoie. D'accord ? Donc, effectivement, là, on est d'accord avec la méthode historico-critique de dire que le Coran ne se lit pas à travers des présupposés idéologiques. Sinon, on se fourvoie. On pourra revenir dessus peut-être au moment des questions. Alors maintenant, l'idée, la vraie question est quel rapport peut-on entretenir entre cette lecture confessante, comme disait le professeur qui est passé avant moi, et la lecture historico-critique. Alors, premièrement, si... L'une des questions qu'a posé Anne-Sylvie, c'est qu'est-ce que peut apporter les études du Coran dans un contexte occidental. Alors moi, je pense que ça peut apporter, d'accord. Alors je m'explique d'abord, moi je n'ai qu'une lecture confessante du Coran. La lecture historico-critique ne m'intéresse pas, et je vais quand même expliquer avant de parler de ces questions, pour une raison simple. C'est une raison de perspective et d'échelle. Qu'est-ce que c'est la perspective et l'échelle ? Alors pour la question de l'échelle, j'ai retrouvé, là je lisais rapidement, hein, dans son petit livre, une citation de Henri Poincaré, d'accord. Alors je lis, hein, il ironisait sur le naturaliste qui n'aurait jamais étudié l'éléphant qu'au microscope et qui prétend le connaître. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un naturaliste qui veut dire qu'est-ce que le phénomène de l'éléphant et puis qui va étudier l'éléphant mais qu'au microscope. D'accord ? Ben, il va pas comprendre que c'est ce phénomène de l'éléphant. Pourquoi dit-il ? Parce qu'en vérité, il y a un principe en science qui est important, c'est que c'est l'échelle qui fait le phénomène. C'est-à-dire que c'est selon à partir de quelle échelle vous allez étudier votre phénomène, que vous allez comprendre ce phénomène. Or, le Coran, qui est pour le musulman un phénomène spirituel, qui est de l'ordre au-delà du corps et de l'âme, forcément, si on l'étudie d'un point de vue purement psychique, ça veut dire sociologique, historique, etc., c'est comme si on étudiait un éléphant au microscope, en fait. on ne comprendra pas le phénomène coranique. On va comprendre, bah, comme on comprendrait qu'il y a des micro-organismes dans l'éléphant, on va comprendre des choses historiques, etc. Mais ça ne servira pas à comprendre ce que c'est le phénomène coranique. D'accord ? Parce qu'il y a un problème d'échelle. Et c'est pour ça qu'il disait Henri Poincaré, vouloir cerner le phénomène religieux par la physiologie, la psychologie, la sociologie, l'économique, la linguistique, l'art, c'est le trahir. D'accord ? Et nous, on part de ce postulat-là. Et c'est pour ça que dans notre institut, dans nos instituts musulmans, je pense en général, on ne parle pas de la perspective historico-critique, mais d'une perspective religieuse, pour comprendre vraiment ce qu'est le phénomène coranique. Comment ce Coran a pu créer cette civilisation, cette communauté de foi, etc. D'accord. Ça veut pas dire que dans un second temps, on ne peut pas l'étudier, la méthode historico-critique, on ne peut pas l'utiliser, c'est ce qu'on va voir après. Ça, c'est la première chose, c'est l'échelle. On va prendre aussi l'idée de la perspective, qui est la même idée. Et là, j'ai pas retrouvé une citation de, je crois, André Malraux, que j'ai beaucoup aimé. Si quelqu'un la connaît, j'aimerais qu'il me la redonne, parce qu'elle est vraiment belle. Je le dis à peu près. Il disait que le rationaliste, pour celui qui veut étudier un phénomène en se trompant d'échelle, et là, c'est plutôt pas l'échelle, mais la perspective, lorsqu'il va regarder un tableau, une œuvre d'art, on va lui dire, oh, elle est magnifique, tu vois, regarde ce qu'elle peut t'apporter d'un point de vue spirituel, émotionnel. Et puis il va la regarder, il va dire, oui, attendez, je vais quand même l'étudier, je vais l'analyser. Et il commence à analyser les composants chimiques. Puis il va dire, bah, voilà, bah, juste du rouge, du bleu, de la peinture. Voilà. Il va commencer à creuser, et puis au moins, il va rester que le plâtre. Et puis tout le génie qu'il y a derrière cette œuvre, elle aura disparu. D'accord, c'est un peu la même idée de perspective. Et là, je ne sais pas où est le monsieur dit, mais il nous a fait une très belle. Comment dire ? Illustration. Ah, voilà. Vous avez donné une très belle illustration avec le verset sur Marie. Donc effectivement, le Coran dit qu'elle part dans un lieu éloigné, un lieu oriental plutôt. Et vous citez le proto-évangile de Jacques, puis Ézéchius, et puis Ézéchiel, etc. Et vous, en fait, vous démontrez, vous dites, bah, à ce moment-là, on peut supposer qu'en vérité, le Coran n'a fait que reprendre, on va dire, certains textes et un fond biblique qui a été repris par certains auteurs, notamment, non, ça c'est pour autre chose, c'est le moine de Jérusalem, c'était pour la suite. Mais bon, enfin, l'idée, elle est la même. Et en fait, ce que vous faites ici, ce qui peut être légitime, hein, c'est bien que l'historien fasse ça, parce que ça peut apporter, d'ailleurs, ça m'apporte beaucoup, moi. Mais en fait, ce que vous faites, c'est que, au lieu de voir, justement, la nourriture spirituelle qu'il y a derrière ce verset, qui peut entrer en résonance avec d'autres traditions, forcément, parce que ça vient par le haut pour le musulman, donc forcément, ça converge. En fait, vous en perdez le génie par une analyse totalement, purement, on va dire, rationnelle, en fait. Et donc, vous allez dire, ben voilà, donc on voit bien, en fait, le Coran, ça a été écrit par d'autres. Bon, c'est pas convaincant. Voilà, pour moi. Je trouve ça très rationaliste. Mais bon, mais en même temps, je ne nie pas la liberté qu'il faut laisser à chaque historien. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ça que je dis. Alors, je terminerai, puisque comme ça, je ne vous embête pas plus. Alors, ce que peut apporter les études du Coran en Europe aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il y a quand même une forme de liberté que ça apporte. Pourquoi ? Parce que, bien que, en mon sens, la méthodologie sunnite de lecture du Coran est une méthodologie ouverte, rappelez-vous que le sunnisme en langue arabe, enfin, la principale appellation qu'on donne, c'est Ahl-Sunnah wal-Jama'a, les gens de la Sunna et de la Jama'a. La Sunna, c'est quoi ? C'est de dire on touche pas au texte en tant que lui-même, on scie pas cette branche. Mais, au-delà de ça, il y a la jama'a, c'est-à-dire la multitude, ça veut dire la multitude d'interprétations. On est totalement ouvert dès lors qu'on ne remet pas en cause le texte en lui-même. D'accord ? Donc il y a vraiment une multitude d'interprétations.
Mais quel texte ?
Le Coran, le texte avec un grand... Alors, ah oui, en vérité, quand on dit Al-Sunnah, Al-Sunnah, c'est le Coran et la tradition prophétique qu'on considère comme authentique. Voilà, c'est ça la Sunnah. Et le jama'a, c'est deux choses. C'est le consensus et la multiplicité des interprétations après le consensus. Ça, c'est en fait Sunnah ou jama'a. Mais ce qui va se passer, c'est que très rapidement, on va construire des dogmes, effectivement. Et qu'on va vouloir imposer. D'accord ? On va pas comprendre que le sunnisme, c'est quand même une démarche qui reste au-delà du texte, de la littéralité du texte, qui est très évolutive, qui est très interprétative et qui permet toutes les. La création et la libération, comme disait le professeur avant moi. Et comme il va y avoir des dogmes qui vont être créés, effectivement, finalement. Le sunnisme a pu être un vecteur qui a empêché la richesse de l'interprétation du Coran. D'accord ? Et effectivement, peut-être qu'aujourd'hui en Europe, il est plus simple pour le musulman même, qui n'a qu'une lecture confessant du Coran, de proposer des lectures et des perspectives un peu différentes. D'accord ? C'est peut-être plus simple pour lui, donc je pense que c'est intéressant qu'en Europe, on a peut-être un espace de liberté qui est plus grand. Deuxièmement, dernièrement aussi, concernant les méthodes et données de la recherche universitaire et la méthode historico-critique, Moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut laisser. Enfin, il faut lui donner libre cours, parce qu'effectivement, ça apporte certaines données historiques très importantes. Et je parle là au-delà de l'interprétation qui, généralement, pour moi, pour l'instant, m'a jamais convaincu. D'accord ? J'essaie de rester à la page un peu de tout ce qui se passe. Je trouve que c'est encore du bricolage, alors bon, il l'avait dit. Et surtout, je terminerai sur ça, c'est que ça convaincra, je pense, jamais le musulman, dans le sens où il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que il me semble que la fiabilité de la tradition orale est plus importante que toutes les études, on va dire, textuelles, enfin, des études historiques d'ordre critique, de la critique textuelle. En fait, elle portera jamais, en fait, cette fiabilité qu'on a de la tradition orale. Il me semble. Et la dernière chose, je reviens toujours à la même idée, c'est la perspective, le problème de la perspective limitée que donne la méthode historico-critique qui ne permet pas de comprendre le phénomène coranique. Et donc, il ne nous intéresse pas forcément dans un institut d'enseignement musulman. Je vous remercie.